Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
En République démocratique du Congo, les guerres successives ont favorisé l'émergence des violences sexuelles. Ce phénomène s'est amplifié et s'est répandu même dans les zones qui n'ont pas connu des guerres. Cependant, le manque de preuves peut conduire à l'impunité de l'auteur des violences sexuelles. En plus, la victime risque de perdre son droit à la réparation des préjudices subis. Alors, comment établir les preuves médico-légales en matière des violences sexuelles? Pour en parler aujourd'hui, nous recevons le docteur Chomba Ondo Bin Salumu. Il est général médecin des FARDC, le seul médecin légiste que nous avons en République démocratique du Congo. Mon général, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous parlons aujourd'hui des preuves médico-légales en matière de violences sexuelles. Alors, pourquoi est-il important de collecter les indices et autres symptômes des violences sexuelles?
Bon, il est un principe de droit élémentaire, que l'on ne peut condamner quelqu'un sans preuve. Seulement, en matière de violence sexuelle, la scène de crime, c'est le corps de la victime.
Tout à fait.
Et en général, ça se passe, sauf exceptionnellement dans certaines situations, ça se passe dans des endroits cachés. Ce qui fait que on a la parole de la victime contre la parole de l'agresseur éventuel ou
qui
potentiel.
Qui peut nier, qui dit « c'est pas moi ».
Bien sûr, voilà. C'est très rare de rencontrer quelqu'un qui dit « moi
je suis l'auteur ».
Ça c'est vraiment, il faut réunir les éléments qui le confondent pour faire triompher la vérité. Alors, nous intervenons à ce niveau-là. Les violences sexuelles ont atteint une allure de fléau dans notre société. Et comme vous avez dit tout à l'heure, avant, on croyait que c'était seulement localisé dans les zones de conflit. Mais en réalité, ça a toujours été comme ça, partout. Actuellement, c'est généralisé. Et ce n'est pas propre à notre époque. À toutes les époques, ce problème existait. Mais les sociétés s'y prenaient différemment. Aujourd'hui, pour faire condamner quelqu'un, il faut réunir les preuves. Le magistrat a besoin de ces preuves pour forger son intime conviction et dire le droit. Comme il n'a pas la formation biologique, c'est-à-dire médicale, et qu'il n'a pas la prérogative d'explorer le corps, ça c'est le travail du médecin, c'est ainsi qu'il fait appel au médecin. Il faut rappeler que la prise en charge holistique des victimes des violences sexuelles, holistique, c'est global, fait intervenir beaucoup de spécialistes. Les causes des violences sexuelles étant multifactorielles, la solution, c'est-à-dire la prise en charge, ne peut être que pluridisciplinaire.
Il faut faire intervenir beaucoup de
disciplines. Il faut soigner
disciplines,
sur le plan physique. Il faut l'accompagner psychologiquement. Il faut l'accompagner du point de vue social, et ainsi de suite. Et puis, le point de vue juridique, donc judiciaire. Et c'est là que nous intervenons, en tant que médecin légiste, lorgnette du juge, pour l'aider à comprendre ce qui s'est passé.
Voilà, vous êtes diplômé de l'Université libre de Bruxelles, ULB, en 1977, et de l'École royale des services de santé militaire à Ghent, c'est ça ?
À Ghent, oui.
À Ghent, en Belgique, où vous êtes spécialisé en médecine militaire. Alors dites-nous, qui peut requérir un examen médico-légal ?
La loi 06/019 du 20 juillet 2006, en son article 14 bis, dit que le magistrat, donc du ministère public, l'OMP, ou le juge, peuvent, en matière de violence sexuelle, requérir d'office un médecin et un psychologue pour 1. déterminer l'état de santé de la victime. Deux, proposer les soins appropriés. Trois, évaluer le préjudice subi et les conséquences futures. Mais en cas de flagrance, parce que les magistrats, les juges ne se retrouvent pas, ne sont pas sur le terrain. C'est l'OPJ qui est le premier échelon dans la recherche des... dans les investigations, recherche de, des éléments de preuve et des contrevenants éventuels. Lui aussi, en cas de flagrance, peut recueillir un médecin légiste.
Alors, dites-nous, docteur, comment va se passer cet examen? Quels sont, comment va se dérouler cet examen? Qu'est-ce qu'on recherche? Quels sont les éléments qu'on va fournir au juge pour bien statuer sur le cas?
Ok. Ça se passe comme tout examen clinique. Il faut recevoir la victime, la mettre à l'aise. Et commencer par l'écouter. C'est sa parole. Il faut lui donner cette impression d'écoute bienveillante.
Il faut la mettre en confiance.
Ah, absolument. Oui. De façon à ce qu'elle se libère. Elle explique. Et il ne faut pas lui poser des questions qui remettent en question sa bonne foi. Donc, recueillir tout ce qu'elle dit, et le résumé par après, lorsqu'on fera le rapport au magistrat. Ensuite, il faut examiner pendant qu'elle explique ce qui lui est arrivé.
Comment le viol est arrivé,
oui,
dans quelles conditions.
Exactement. Oui. Tout ça, ça s'accompagne d'une attitude. Elle peut être prostrée, elle peut être excitée, elle peut être
complètement...
en colère aussi. Elle peut être déprimée, et ainsi de suite. Tout ça sont des éléments qui nous permettent de nous faire notre propre opinion. Ensuite, il faut passer à l'examen. Toutes les étapes, il faut lui expliquer. Bien, voici, on va faire maintenant ceci. C'est pour telle raison, pour ceci, ainsi de suite. On l'examine. On ne s'occupe pas seulement de la zone urogénitale. On fait un examen total, global.
Vous commencez par quoi? Pour terminer par quoi?
On commence par prendre la tension, écouter le cœur, et on termine par la sphère urogénitale. Et c'est ici que, selon les cas, on va trouver les éléments qui nous permettent de corroborer les paroles de la victime. Si on trouve des lésions de type préhension, donc les coups d'ongle, les ecchymoses, des choses comme ça, ça, ce sont des signes de violence. Si ce sont des signes de violence, c'est que la personne n'était pas consentante. Donc ça donne plus de poids à ce que la victime
raconte. Les signes sur son corps
Sur son corps, oui. Sur son corps. Et,
qui prouve qu'elle a été brutalisée.
Qu'elle a été brutalisée.
Ok.
Et ensuite, on lui explique que l'on doit faire des prélèvements. Et là aussi, c'est le problème de timing qui intervient. Pour certains éléments, comme la présence des spermatozoïdes et des choses comme ça, il faut que cet examen se fasse dans les 72 heures. Au-delà de 72 heures...
On perd les traces.
On perd les traces.
Oui.
Le problème, c'est lequel? Quelqu'un qui a été violenté dans son intimité, sa première réaction, c'est une réaction de rejet. Elle se sent souillée. Donc, son premier réflexe, c'est de se laver. Ce faisant,
on élimine l'épreuve.
Et ça, voilà. ça nous crée parfois de petits problèmes. Mais l'un dans l'autre, on peut mettre tous ces éléments ensemble pour dégager une présomption et expliquer ça au magistrat.
Comment établir les preuves médico-légales en matière de violences sexuelles? Nous avons dans ce studio le général Chumba, médecin légiste à l'hôpital général de Kinshasa. Edgar Lokamba, un premier auditeur qui nous appelle depuis Kananga, il voudrait poser une question. Vous voulez également participer à cette émission? Composez les 081 890 63 94.
C'est parce que Radio Kapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, Une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Comment établir les preuves médico-légales en matière de violence sexuelle? Edgar Lokamba, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, Jody Daniel.
Quelle est votre question, Edgar?
Merci pour la parole, Jody. C'est vraiment un sujet très important. En effet, Jody, le viol ne peut être confirmé qu'à travers un certificat médical d'agression sexuelle. Chose grave, dans nos milieux, on semble ignorer cet aspect des choses. Alors, la loi sur les violences sexuelles sur mineurs du 20 juillet 2006, dans un paragraphe de cette loi, il est dit, je dis, tout homme qui aura introduit son organe, même superficiellement, dans celui d'une femme, donc soit dans un orifice naturel, ou toute femme, quel que soit son âge, qui aura obligé un homme à introduire, même superficiellement, son organe dans les siens, est considéré comme violence sexuelle. Alors, dans les cas où la victime est un homme, quelles seront les preuves médico-légales, surtout si la chose date de plusieurs jours? Et toujours, si la victime est un homme, en dehors combien de temps la personne victime doit se présenter dans un centre médical pour des examens? Et je termine par la dernière question. Si la victime a été violée par deux ou plusieurs personnes successivement, comment procéder alors pour identifier les victimes? Merci beaucoup, Jody.
Merci bien. Docteur Chomba.
Bon, d'abord bonjour à notre frère Edgar et merci pour les questions. Son préambule s'adresse à la définition du viol d'après le code pénal révisé, amplifié, modifié.
Oui.
C'est vrai. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le problème de temps. Dans les 72 heures, les lésions, s'il y a des lésions physiques, sont plus faciles à identifier, à dénombrer et à évaluer. Il y a aussi des prélèvements qui sont utiles dans les premières 72 heures, comme je venais de le dire. Ceci est valable pour l'homme comme pour la femme. C'est ce problème de temps. Parfois, question de distance ou d'ignorance, les gens font appel à la justice tardivement et celle-ci saisit le médecin tardivement, ce qui fait qu'on se retrouve en dehors des délais qui nous permettent de faire les prélèvements qui peuvent aider le magistrat à se forger son intime conviction.
Oui.
Maintenant, dans le cas d'un homme violé, chez l'homme, comme chez la femme, toutes les zones du corps peuvent être érogènes, c'est-à-dire susciter l'excitation, et ainsi de suite. Mais la perversion, dans ce cas-ci, c'est d'utiliser les organes sexuels dans des endroits qui n'étaient pas prévus pour ça. Introduire son organe mâle dans la bouche, on appelle
dans
ça
la zone anale.
Dans la bouche, d'abord, ça s'appelle la fellation.
Okay.
C'était pas prévu pour ça. Dans l'anus, ça s'appelle sodomie. C'était pas prévu pour ça. Et ça, nous sommes vraiment dans la perversion. Mais maintenant, lorsque les relations sexuelles utilisent cette voie, cliniquement, nous pouvons le déterminer. Ça veut dire que, au niveau de l'anus, il y a des plis radiaires qui convergent vers l'orifice anal. En cas de sodomie ou de quelqu'un qui a l'habitude d'avoir des rapports sexuels par cette voie, ces plis disparaissent. Ce qui est une preuve pour nous de l'utilisation de cette voie sur le plan sexuel. Edgar s'est inquiété de savoir si plusieurs personnes...
La femme a été violée par plusieurs,
personnes.
Oui, là, ça devient compliqué.
Et il faut savoir que nous ne disposons pas actuellement des examens génétiques.
L'ADN.
On recherche l'ADN, ainsi de suite, parce que ça coûte très cher.
Oui.
Quand on fait des prélèvements pour certaines familles qui le peuvent, on les envoie à l'étranger. Et là, il y a moyen, effectivement, de cibler... Notre rôle en tant que médecin légiste, ce n'est pas d'imputer le fait à telle ou telle personne.
mais c'est de confirmer, de corroborer par les éléments physiques que nous avons constatés, et même psychiques que nous avons constatés chez la victime, que ce que la victime a raconté est exact. Donc, nous luttons pour le triomphe de la vérité. Et dans le cas d'une agression multiple, lorsqu'on fait les prélèvements, dans des cas comme ceci, les examens d'ADN permettent de distinguer. Mais si c'est une seule personne, on aura le même profil génétique. Donc on peut, avec certitude, dire que c'est cette personne-là. Mais si on trouve plusieurs profils génétiques, on peut sous-entendre que l'agression a été faite par plusieurs personnes. Mais maintenant, pour pouvoir identifier ces personnes, lorsqu'il y a un présumé, il faut l'examiner aussi. Et vous prélevez un petit peu de sa peau, de la muqueuse au niveau de la bouche, pour analyse génétique. S'il s'avère que cette analyse donne le même profil que ce que l'on avait trouvé chez la victime, là, on peut imputer cela à ces personnes.
D'accord. Nous avons deux autres auditeurs en ligne. Clément Mouyaye Tambujima et Etienne Katumanga à Kananga. Clément, bonjour.
Oui, bonjour, Jody Daniel.
Quelle est votre question?
Ma question est de savoir quelle est la procédure de la saisine du tribunal pour enfants en cas de viol. Qui doit saisir le tribunal en cas de viol? Bon, et à cela, j'ajoute une petite préoccupation. Est-ce que après une année, le viol a été perpétré une année après, est-ce que les parents peuvent-ils se prévaloir le droit d'aller saisir le tribunal? Est-ce qu'il y a-t-il moyen de prouver concrètement qu'il y a eu viol d'enfant ou il y a eu viol sur un enfant?
D'accord, merci. Etienne, vous êtes à Kananga, bonjour. Etienne, bonjour. Voilà, Étienne n'est plus en ligne. Docteur Tchomba.
Effectivement, l'enfant a ses tuteurs ou ses parents. Lorsque l'enfant vient raconter ce qui lui est arrivé, innocemment, il appartient aux parents de saisir la justice, de porter l'affaire devant la justice, d'où toute la procédure que nous avons expliquée tout à l'heure. Après un an, j'ai insisté sur le facteur important, temps. Plus le temps passe, plus les éléments de preuve disparaissent. Vous voyez? Et ça devient très très difficile de prouver. Néanmoins, même après un an, on peut se baser sur les circonstances, les lieux et certains éléments qui peuvent aider à circonscrire plus ou moins ce qui s'était passé, avec très très peu de chances de convaincre le magistrat. C'est pour ça qu'il faut insister qu'en cas de violence, en cas d'agression sexuelle, il ne faut pas traîner. Rapidement, il faut aller porter plainte. Et le mieux, le plus rapidement possible, si possible dans les 24 heures, 48 heures, 72 heures plus tard, et parfois un tout petit peu après, mais les lésions sont encore fraîches, peuvent être facilement documentées.
Et il y a certains violeurs qui s'amusent à introduire des objets dans le sexe de la femme, ça peut être des morceaux, des bâtons, tout ça.
Exact.
Alors pour l'examen va aider à déterminer rapidement qu'il y a eu introduction de ces genres d'objets.
Absolument, absolument. Parce que ce qui est prévu naturellement pour être introduit à visée sexuelle n'a pas d'aspérité. À partir du moment où vous prenez un objet dur, que ce soit du bois ou de tesson de verre, vous lésez la muqueuse, vous lésez la peau, et ces traces mettent un certain temps à cicatriser, ce qui nous permet de les dénombrer et de confirmer les allégations de la victime.
Alors, votre examen, normalement, prend combien de temps? Et les rapports que vous allez faire au magistrat, quelles sont les rubriques ou les différentes informations que vous donnez dedans, dans ce rapport?
Normalement, nous sommes tenus par le temps. Ça veut dire que, d'après la loi, dès la saisine, dès le moment où l'affaire est en justice, le juge, le magistrat instructeur a plus ou moins un mois, deux mois pour réunir toutes les preuves et traduire la personne devant le juge. Dès le début de l'affaire en justice, la loi impose au magistrat trois mois grand maximum pour trancher. Alors, nous, en cas de problème de viol, nous faisons les examens le plus rapidement possible et nous envoyons notre rapport, même préliminaire, parce que les résultats de labo peuvent traîner. Nous envoyons le rapport préliminaire et comme ça, ça évolue. Alors, la confection, la rédaction de ce rapport.
Oui.
Le rapport d'expertise médico-légale, c'est le seul document valable utilisable en justice. Il contient quatre rubriques.
Lesquelles ?
La première rubrique s'appelle préambule. C'est ici que l'on situe, on donne le numéro de la réquisition, la date, le magistrat qui l'a demandé, ou l'OPJ, ou le juge, et l'article de loi à laquelle on se réfère. Et dans cette partie, on donne aussi la mission, c'est-à-dire ce que l'on demande au médecin légiste de faire, ou au médecin expert.
Oui.
La deuxième rubrique, c'est commémoratif et exposé des faits. Cette rubrique est subdivisée aussi en trois parties. La première partie où on donne tous les documents, on cite tous les documents qu'on a reçus, radiographie, photographie, les réquisitions, ainsi de suite.
Oui.
La deuxième partie, c'est l'exposé des faits. C'est-à-dire qu'on résume ce que la victime a raconté. Mmh. La troisième partie, 2.3, c'est l'examen. Ce que on a constaté à l'examen physique. Mmh. La troisième partie, qui est beaucoup plus importante, c'est la discussion et interprétation des faits. C'est ici que le médecin légiste ou le médecin expert doit développer, expliquer au magistrat de façon concise et précise, donner son raisonnement qui l'amène à conclure au point 4, le dernier point, conclusion. Au niveau du point 4, on ne donne que les réponses à la mission. On ne développe rien du tout ici. On dit point 1, on répond. Point 2, on répond. Point 3, c'est tout. Voilà comment ça se passe.
Voilà. Nous avons un autre auditeur en ligne, Ogui Bendelo. Vous êtes à Kikuit, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité, et bonjour à tous ceux qui sont présents dans la branche.
Voilà, bonjour. On vous écoute.
Merci Jody de m'avoir accordé la parole. J'ai une question à poser à notre invité. Je voulais le demander parce qu'il fait souvent mention de la victime. Et pourtant nous connaissons qu'il y a aussi des hommes qui sont violés. Alors je voulais lui poser la question, si c'est un homme qui a été volé, quels peuvent être les signes? Et aussi, j'aborde la même question dans deux sens pour dire qu'au Congo, la corruption est devenue comme un vaccin. Si un médecin qui va élaborer ces examens-là est corrompu malgré les témoignages des gens, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? C'était la meilleure préoccupation aujourd'hui. Merci beaucoup.
Bien. Docteur Tchomba.
C'est une préoccupation tout à fait légitime. Je voudrais rassurer notre frère que le médecin légiste, c'est la lorgnette du juge, c'est-à-dire ses yeux, ses oreilles, ainsi de suite. Le médecin légiste, c'est la passerelle entre la justice et la médecine. Donc, il ne peut en aucun cas induire le magistrat en erreur. Il ne peut que lui dire ce qu'il a constaté, ce qu'il a entendu, et pas inventer quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on dit que les preuves médico-légales sont des preuves scientifiques, c'est-à-dire indicielles, basées sur les indices. Pour revenir à la préoccupation du frère.
Par rapport aux hommes.
Un homme est anatomiquement constitué différemment d'une femme.
Oui.
Mais il est constitué de peau, de muqueuse, comme une femme. Cette peau, cette muqueuse, lorsqu'elle est lésée, elle se conduit de la même façon, elle montre les signes de la même façon. Mais l'agression sexuelle, ici, dans le cas de l'homme, va soit être perpétrée au niveau de l'orifice anal, plus souvent, c'est la sodomie. Et ici, on trouvera effectivement des lésions. La muqueuse va être lésée, elle va saigner parce qu'elle est très, très, très fragile. Mmh. Les plis radiaires dont je vous ai parlé vont disparaître. Et la personne va signaler d'autres difficultés que nous allons noter. C'est en ce qui concerne l'homme, il peut y avoir aussi des lésions de défense. Coups d'ongle, éraflures, même des ecchymoses s'il a essayé de se débattre. Mm-hmm. Tout ça sont des éléments que nous, nous engrangeons et que nous donnons au magistrat pour que lui-même se fasse une idée.
Alors dites-nous, docteur Tchomba, combien de victimes sont déjà passées vous voir depuis que vous êtes à l'hôpital général de Kinshasa par rapport aux violences sexuelles?
Beaucoup. Et majoritairement des jeunes filles, avec un pic entre 6 et 11 ans, davantage entre 11 et 14 ans.
Est-ce qu'elles viennent dans les délais ou bien elles viennent tard?
Certaines tardivement, d'autres dans les délais, ainsi de suite. C'est tout à fait variable, mais beaucoup, beaucoup. On est à plus de 2000 depuis... plus de 1000.
Plus de 1000.
Ah oui, oui, oui.
Or, on pensait que les violences sexuelles, c'est seulement dans les zones en conflit, là où il y a des guerres, il y a des conflits armés, mais c'est étonnant de voir que même là où il n'y a pas de conflit...
Et c'est ça l'allure fléau que prend ce phénomène de société contre lequel il faut absolument lutter. Et comme les langues commencent à se délier, on peut espérer que... avec les mesures que la justice peut prendre, on peut dissuader certains. La difficulté, c'est celle-là. Mmh. Il y a une incompréhension entre la population et la justice. Je vous ai dit que c'est un principe élémentaire de droit. Un juge qui n'est pas convaincu de la culpabilité de quelqu'un ne peut pas condamner. C'est pour ça qu'il faut réunir les preuves et les preuves convaincantes. C'est pour ça que, aussi, nous avons écrit
Vous avez écrit un guide, ça s'appelle Guide d'expertise médico-légale en matière de violences sexuelles, rédigé par le professeur Dr Tchomba Ondo et Dr Mouela Difunda. Mais le problème, c'est que vous êtes actuellement le seul médecin légiste en République démocratique du Congo. Or, les viols se commettent à l'Est dans les zones en conflit. Il y a besoin d'avoir plusieurs médecins légistes.
Exact.
Et ça, c'est la grande difficulté aujourd'hui.
C'est une montagne. En tout cas, nous nous efforçons, en écrivant ceci, c'est pour élargir les contacts, pour permettre à ceux qui sont esselés, qui n'ont pas le contact avec nous, par exemple, ou avec l'université, comment s'y prendre lorsque un cas pareil arrive dans leur environnement.
Oui.
Comme ça, ils ont tous les éléments qui leur permettent de faire le travail convenablement et conduire à convaincre le juge pour que celui-ci dise le droit correctement. Mais une fois qu'il dit le droit correctement, il va effectivement condamner. Parce que le juge préférera prononcer un non-lieu à l'endroit d'un authentique criminel plutôt que de condamner un innocent. Ça, c'est comme ça. D'où l'importance de lui apporter les éléments de preuve qui le convainquent absolument, qui forgent son intime conviction. Mais pour ça, ça ne se suce pas du pouce. Hein. Il faut une certaine formation. C'est pour cela que nous circulons dans toutes les universités où nous donnons cours pour sensibiliser les confrères à ces éléments.
Mais est-ce que dans la faculté de médecine, il existe une filière, une spécialité seulement dans ces domaines?
Non, pas encore.
Pas encore.
C'est parce que nous sommes très souvent sollicités sur cet aspect que nous essayons de sensibiliser un maximum possible et des médecins et des magistrats, parce que nous formons aussi les magistrats militaires et civils dans la prise en charge de ceci, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. N'importe quel médecin, n'importe quel infirmier ne peut pas faire un rapport d'expertise médico-légale dans les normes sans avoir été formé.
Pourquoi ne pas faire un plaidoyer pour la création de cette filière?
Nous nous battons justement depuis 2006 pour qu'il y ait une chaire de médecine légale pour former les médecins légistes. C'est 5 ans après.
De formation.
Ah oui, c'est 5 ans de spécialité. Ce n'est pas facile. Il y a beaucoup d'obstacles administratifs. Bon, nous continuons quand même à nous battre. Nous n'avons pas attendu la création de cette chaire pour former quand même quelques-uns de nos compatriotes, médecins, pour augmenter leur capacité, leurs compétences médico-judiciaires. Parce que le médecin, il est à l'aise dans sa salle d'opération. Il est très mal à l'aise devant la barre, devant les juges.
Oui.
Et c'est vrai que la compétence scientifique, lorsqu'un médecin a été bien formé, il peut bien dire que l'hymen a été déchiré ou défloré.
Oui.
Mais pour expliquer ça au magistrat, ce n'est pas évident.
Oui.
Donc il lui faut une compétence expertale et c'est ce que nous apportons.
Bien, docteur Tchoumba, général des FARDC, médecin légiste à l'hôpital général de Kinshasa. Voilà, nous vous disons merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Peut-être qu'il y a certains médecins dans le pays, à travers le pays, qui vous ont suivi et qui sont intéressés. Par quels moyens on peut, c'est possible de donner votre numéro par lequel on peut vous joindre?
Oui, d'abord, ils peuvent passer par vous. Je remercie en passant pour cette initiative parce que ça va dans le sens de ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Plus nous serons, c'est-à-dire bien formés, plus nous serons utiles à la justice, plus nous rendrons de fiefs services aux victimes, hommes ou femmes, et leur donnerons leur droit à la réparation. Parce que si on ne condamne pas l'agresseur,
oui,
faute de preuves, on prive la victime de ses droits à la réparation. Bon, mon numéro de téléphone, je suppose qu'ils pourront toujours passer par vous. Vous pourrez même leur donner mon adresse mail.
Okay.
C'est le 081 333 10 43.
081 333 10 43. Merci beaucoup à professeur Tchoumba Ondobin Salomon, général médecin des FARDC et médecin légaliste à l'hôpital général de Kinshasa. Merci, à la prochaine.
Merci Jody, merci.